Voilà, eh bien, nous allons faire aujourd'hui, et oui, c'est toujours triste, la clôture d'un festival, mais en même temps, il y a beaucoup de fêtes dans ce festival, Latitude Contemporaine, cette année encore. Donc, voilà, ça c'est le côté, positif des choses, et notamment, l'intérêt, la richesse de ce festival dont nous allons rendre compte aujourd'hui, avec Françoise Frima, qui est donc le président de Latitude Contemporaine. Bonjour François.
Bonjour Renaud.
Donc, comment on pourrait parler de cette édition? Qu'est-ce qu'elle a de différent des autres? Et puis, peut-être aussi dire, qu'est-ce que vous y avez trouvé de novateur, d'enrichissant pour le public comme pour vous?
Bah, pour nous, cette édition elle était importante puisque c'est la première fois qu'on l'a construit autour de ce grand rendez-vous professionnel. Qui s'est passé les 11 et 12 juin. Et c'était un peu un pari de savoir si la question des bureaux de production allait intéresser suffisamment le milieu chorégraphique, le milieu culturel. Bon, eh bien oui, puisque la réponse a été au-delà de nos espérances. On a dépassé en fréquentation ce qui avait été prévu. Il y avait 200 inscriptions, mais on est allé bien au-delà, et donc de toute l'Europe. Les gens sont venus pour parler de cette question des bureaux de production. Et ça, c'était très satisfaisant. Ils ont été présents massivement, ils ont été réguliers, assidus, toute la journée, toute la soirée, tout le lendemain à Valenciennes, parce que c'était aussi un pari cette année de faire un décrochage d'une journée à Valenciennes. Bon, et bien, le public a suivi. Était au rendez-vous et voilà. Bon, de voir aussi que cette année on a visiblement une montée en flèche de la fréquentation. On a fait, je crois, plus de 6 500 spectateurs sur l'ensemble du festival, ce qui est assez conséquent. Vous avez pu constater, vous aussi, les soirs où vous êtes venus, qu'il n'était pas toujours facile d'entrer dans la salle, en particulier à Ouezem. Voilà, et puis alors, enfin, dernier point de satisfaction, bah, la programmation, parce qu'en fin de compte, bon, il y avait quand même quelques créations à l'ordre du jour, et avec les créations, il y a toujours une prise de risque, puisqu'on ne sait jamais ce que ça va donner par définition le jour même de l'actuation, et en fait, on est très content de ce qui s'est passé, les retours sont bien passés. J'ajouterai un dernier point aussi. Un autre point de satisfaction, c'est de voir l'affluence aussi de plus en plus conséquente aux instants critiques. C'est-à-dire que le public est vraiment de plus en plus demandeur, il y a de plus en plus de monde. Voilà, et ça c'est bien, ça veut dire qu'on n'est vraiment pas dans une pratique de simple consommation de spectacle et que tout cet aspect-là va s'amplifiant, c'est ce qu'on voulait, c'est ce qui se passe. Donc on est assez heureux en fait.
Voilà, donc autour de la table, eh bien, il y a deux personnes qui ont travaillé autour de la mémoire et aussi des réactions du public. Donc, on va présenter Amélie Kesterman et puis Elisabeth Boutard. Bonjour.
Bonjour.
Donc, votre projet, c'est un projet vidéo?
Donc, c'est un projet vidéo que l'on a nommé La boîte à questions et qui est né en fait l'année passée pendant le Festival d'Avignon. Dans le cadre d'un projet de Elisabeth qui va vous expliquer c'était dans quel cadre exactement.
En fait, on a lancé ça sur Avignon parce qu'on avait envie de. En fait, on est parti d'un quartier spécial d'Avignon qui n'était pas concerné a priori par le spectacle vivant, mais dans lequel un théâtre, la manufacture, présente une programmation. Donc on avait envie de faire quelque chose avec les habitants de ce quartier et de les inviter à réagir, à construire un raisonnement et enfin une pensée autour d'une programmation, autour d'un spectacle. Voilà, puis au fur et à mesure, en travaillant toutes les deux sur le projet, on a ramené cette Web TV qui était à l'origine un débat. On l'a ramené petit à petit entre les quatre murs d'une petite boîte, une petite boîte à questions où on invite les gens à venir à répondre à nos questions, soit des questions légères, soit des questions vraiment plus sur un spectacle en particulier, sur leur fréquentation justement du spectacle vivant ou leur non-fréquentation, voilà, enfin tout un tas de petites questions qui permettent aux gens de voilà, de venir dans notre boîte faire un petit point sur ce qu'ils ont, sur la soirée qu'ils ont passée, sur ce qu'ils ont ressenti.
Alors, pour l'instant, les réactions ont été déjà vues par quelqu'un, par qui
Ben justement, on en a eu une première qui s'est faite à Avignon. On est en train d'en faire également à Mons. Mm-hmm. Elles ne sont pas encore en ligne. D'accord. Et celles des latitudes contemporaines ne sont pas encore en ligne. Donc je suis la seule à avoir vu tous les rushs. Je suis la seule à voir toutes les réactions du public qui sont très positives, qui sont totalement différentes d'une personne à l'autre, que ce soit à propos du spectacle ou à propos de questions plus anodines. Une question comme « D'où venez-vous ?» peut donner des réponses très directes. « Je viens de Mons », voilà. Ou bien des gens qui se posent vraiment la question « Mais d'où je viens ?» Et là, ils sont en réflexion devant la caméra pendant 5 minutes, les yeux dans le vide. C'est vraiment très intéressant de voir les gens face à face. Ils sont vraiment face à un miroir. Et ils ont la parole libre, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils ne sont pas obligés de répondre à toutes les questions. Mais les questions sont totalement différentes d'une personne à l'autre.
Donc vous avez eu la gentillesse de nous préparer un petit montage sonore de ces interventions. On va peut-être les écouter.
Oui, bien sûr.
Et puis peut-être pour François, ça nous fera des souvenirs aussi, hein, pour nous. En tant que bon, de ces spectacles, en fait, on en a vu une grande partie. L'occasion de se remémorer aussi et avoir un angle de vision de... personne, donc subjectif, mais toujours riche. Et on est preneur de ça.
Allons-y, on est très preneur.
L'attitude contemporaine, qu'est-ce qui évoque ces deux mots pour vous ?
Ah.
Un super festival de danse et de performance qui a lieu tous les ans au mois de juin à Lille.
Québec.
Pas trop difficile.
C'est vrai que moi, ce que ça évoque en premier, c'est le jeu de mots. Mais voilà.
Okay.
Quand j'entends l'attitude contemporaine, je pense à l'attitude.
Bah oui.
Ben oui, mais c'est ce qui n'est pas comme ça.
Non.
Voilà, on passe à la prochaine question.
La danse contemporaine et vous, ça a commencé comment ? Racontez-nous cette histoire. Enfin, moi, personnellement, ça a commencé au lit avec toi. Je me souviens...
On ne peut pas en parler.
On ne peut pas en parler.
Pouvez-vous nous raconter en quelques mots le spectacle Yaksu Exit Number 9 ? Alors moi, j'ai trouvé que c'était assez sensuel. Ça parle du monde du showbiz. Quelque chose d'à la fois glamour, superficiel et avec beaucoup de paillettes. Et j'ai trouvé que le duo était très intéressant, assez punchy, avec une fin peut-être un peu longue à mon goût. C'est peut-être la difficulté quand on joue des personnages un peu alanguis, c'est de trouver du rythme pour le spectateur. Mais dans l'ensemble, c'était très bien. Et j'ai vraiment passé un super moment et je suis très très contente d'avoir vu ce spectacle.
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? En quelques mots, je suis plasticienne et très curieuse de voir ce que d'autres plasticiennes font en tant que chorégraphe aujourd'hui.
Je suis Magda.
C'est difficile. C'est difficile parce que l'identité, ça se résume pas.
Alors moi, je réponds à l'autre question. Vous êtes-vous posé des questions pendant le spectacle ? Si oui, pouvez-vous nous faire part de l'une d'entre elles ? Oui, je me suis posé pas mal de questions sur une partie en ce qui concerne les meringues, puisque je ne voyais pas grand-chose, puisque nous étions très nombreux dans la salle. Et donc, une des questions, c'est je voulais savoir quel type de chaussures elles avaient mises. Voilà, parce que je voyais bien qu'elles mettaient des super pompes que j'aurais voulu d'avoir quand j'étais une personnalité. À l'époque où j'avais 2 ans, future danseuse contemporaine.
Alors, le spectacle en quelques mots. Je vais répéter la même chose, c'est une histoire d'hypnotisation. J'ai l'impression d'avoir passé 1h30 avec des serpents et voilà. Et donc j'ai bien plané et c'était très intéressant et voilà.
Voilà, Voilà, donc quelques réactions du public. On va, à ce moment de cette émission, présenter Xiaoyun également, qui est aussi un des témoins de ce festival. Bonjour Xiaoyun.
Bonjour Alain.
Donc tu as eu l'occasion d'assister à plusieurs spectacles.
Le premier,
c'était Stephen Cohen.
Oui.
Donc effectivement, on a déjà parlé de ce spectacle dans les éditions précédentes plusieurs fois, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui nous a beaucoup touchés, intéressés.
Oui, bien sûr.
Qui marque, on va dire, le public, tout comme quelqu'un d'autre que je ne connaissais pas, que j'ai découvert cette année, et donc dont on va donner dans quelques instants la présentation des instants critiques. On a extrait 15 minutes des instants critiques, tu vois, qu'on va diffuser maintenant. Donc il s'agit de Miguel Gutiérrez. Gutiérrez, voilà. François, présenter cet artiste rapidement.
Miguel est un chorégraphe, danseur américain qui nous vient de Brooklyn, qui est vraiment formé à la danse, à ce qu'on appelle la danse contemporaine américaine. Donc oui, tout ce qui s'est fait dans le prolongement de la Judson et puis des esthétiques développées là-bas dans les années 80-90. Il est absolument époustouflant parce qu'il est aussi bon chorégraphe que danseur, que comédien, que chanteur. Il a en particulier une activité musicale assez développée avec Vincent Segal, où ils se produisent ensemble. On les a eus là pour un bal, ce qu'on avait appelé un bal. Il a des possibilités vocales tout à fait étonnantes. Et là, c'est quand même un jeune chorégraphe, même si ça fait longtemps qu'il travaille. Alors, il est arrivé en Europe, je crois, dans 2006. C'est Alain Buffard qui est allé le chercher aux États-Unis, qui l'a ramené, qui l'a fait jouer dans la pièce qu'on a présentée l'année dernière, qu'on a présentée l'année dernière et qui avait été jouée aussi au Bateau Feu. Not a Love Song, avec ce quatuor incroyable qu'il formait avec Vincent Segal justement et Claudia Triozzi et Vera Montero. Et à la suite de ça, il a commencé à faire ses propres pièces. Donc c'est un jeune chorégraphe en même temps. C'est un peu l'une des lignes de la programmation, de toujours s'ouvrir. Voilà. Alors le solo, il a présenté deux pièces, le solo
de la soirée de
prospective et exhibitionniste qu'il a joué vendredi en clôture. Il l'avait créé à Bruxelles lors de notre édition bruxelloise l'an dernier, donc en septembre. Bon, il l'avait beaucoup retravaillé avant de la présenter ici. Et puis, Last Meadow, cette pièce à partir de James Dean, c'est sa première pièce, je dirais, collective, où il est essayait de mettre en scène à partir d'un propos, puis d'articuler aussi son rapport aux États-Unis, son rapport à la danse, et puis toujours évidemment les problématiques identitaires qui cette année étaient l'une des lignes forces de la programmation du festival.
Voilà, donc on va revenir sur les instants critiques qui présentaient la première soirée qu'il a présenté, son premier spectacle. Voilà, donc on va prendre le temps, tranquillement, 15 minutes quand même, d'extrait, qui est d'une séquence qui durait beaucoup plus longtemps. Mais c'est donc Xiaoyun qui a fait cette sélection.
Oui, en 4 heures.
En 4 heures, elle a extrait 15 minutes. Voilà, donc vous avez cette présentation qui va être faite maintenant. Accrochez-vous, c'est parti.
Bon, alors commencer par d'abord dire un grand, grand bravo pour cette pièce, vraiment impressionnante. Moi, j'avais envie de dire, pour commencer, qu'elle m'a réjoui quand même, quelque part, pour deux raisons. D'abord parce que, bon, bien sûr, on ne va pas dire tout ce qui peut se lire très facilement. En gros, des années 50, donc des années 50 à aujourd'hui, rien n'a changé. Moi, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que la contestation et la subversion politique dont était porteur l'icône James Dean, et avec tous les thèmes qui sont repris, elle est aussi ici au service de la perturbation des codes du spectacle. Parce que on est parfois un peu fatigué de voir beaucoup de pièces très conceptuelles et pas du tout spectaculaires, et d'autres pièces très spectaculaires, mais parfois qui n'ont pas beaucoup de fond. ici de voir que sans complexe, vous vous permettez tout parce que vous n'êtes dupe de rien. Ça, c'est réjouissant. Et la deuxième chose, c'est cette forme d'élégance à proposer quelque chose d'aussi jubilatoire, quelque chose de désolant. Alors peut-être, je voudrais vous demander un peu justement comment ces partis pris sont arrivés dans la genèse du projet.
Ok, hello, hi. I'm Miguel, this is Michel Boulay, Tariq Halaby. Before we started working, I had started thinking about the idea of misinterpretation.
Avant qu'on commence à travailler, j'avais commencé à réfléchir à l'idée de non-interprétation ou de mauvaise interprétation.
A couple years ago, I started working with a French choreographer, Alain Buffard.
Donc, il y a quelques années, j'ai commencé à travailler avec le chorégraphe français Alain Buffard.
And we have this piece and we were touring it a lot and I was very often in situations like a dinner where everyone was talking and I didn't know what the fuck was happening. I didn't know what anyone was saying.
Donc on avait une pièce qui tournait énormément et j'étais très souvent dans des situations d'être dans des dîners après les shows où tout le monde était en train de parler et puis j'avais aucune idée de ce dont on était en train de parler en fait, je comprenais rien.
And so I would notice how my imagination would just disappear, like I would disappear into my imagination. The present context was just like this bizarre frame for a very personal, private experience that I was having.
Et donc dans ces moments-là, j'avais l'impression de me dissoudre complètement dans mon imagination et de flotter dans une sorte de contexte comme ça dans lequel voilà, je disparaissais un peu et puis j'étais dans une sorte de contexte assez privé où voilà, je flottais.
And then, so I was thinking about that. And then I was also thinking about dance and my long, frustrating, passionate relationship with dance.
Donc j'ai commencé à penser à tout ça et j'ai aussi pensé à ma relation avec la danse et à ma très très longue relation, très frustrante relation avec la danse.
And I was thinking about how it's this thing that nobody really understands.
Et donc je me suis dit que c'est en fait quelque chose que personne ne comprend vraiment.
And that is often, I feel like that's why it exists in such a, at least in the United States, in such a low cultural standing.
Et donc parfois je me demande comment c'est possible que ça continue à exister dans un standard culturel aussi bas, aussi pauvre.
And I think it's one of the really marvelous things about dance, that it's this thing that nobody understands.
Et donc je pense que c'est une des choses les plus remarquables au propos de la danse, c'est que c'est justement cette chose que personne ne comprend.
And for me, that means that because I increasingly feel bored when I understand things.
En fait, ça m'ennuie de plus en plus de comprendre les choses.
Increasingly, theater or dance becomes interesting for me when I'm confused.
Et de plus en plus, et cela en augmentant, le théâtre, la danse devient intéressant pour moi quand je me retrouve dans une situation un peu de confusion.
So, these are all ideas. I went on a tour with Alan and I borrowed a DVD of East of Eden, one of the James Dean films.
Donc j'étais sur une tournée avec Alan et j'ai emprunté un film, un DVD, à l'Est d'Éden avec James Dean.
And I went to watch it and the movie was missing and instead there was only the special features.
Et donc j'ai essayé de le regarder, mais le film n'y était pas. Il y avait simplement les effets spéciaux et puis les bonus.
And there were all these old films of the character or the actors trying on costumes and doing like screen tests.
Et donc il y avait toutes ces espèces de vieux extraits d'acteurs qui essayent des costumes, qui font des auditions à l'écran, des morceaux, des petits bouts.
And I became fascinated by these. They were like silent films because there's no sound.
Et donc ça m'a fasciné parce que c'était comme des films muets, il n'y avait pas de son, et donc c'était des petits extraits de films muets.
And I just began looking at James Dean, who of course I knew James Dean. I started to think about him as a kind of iconic representation of all these ideas around misinterpretation and misunderstanding.
Et donc j'ai commencé à regarder James Dean, bien sûr je connaissais James Dean, mais je l'ai re-regardé à partir de ce moment-là comme une sorte de représentation iconique, mais de la mauvaise compréhension qu'on pouvait avoir des choses.
I'll say one more thing about it. we started to work with these movies. After that, about a month later, my father had a stroke.
Donc après ça, un mois plus tard, mon père a eu une attaque.
And a good friend of mine also had a brain trauma.
Et aussi un très bon ami à moi qui a eu un accident cérébral.
And I watched both people kind of come back to life, and I started to just again think about this idea, like, what is a body and what is a person and where does the mind exist and where does comprehension exist.
Et donc j'ai eu l'occasion de voir ces deux personnes revenir à la vie et de réfléchir à la signification de ce qu'était un corps, de ce qu'était un esprit, de la manière avec laquelle ces deux éléments s'incarnaient les uns dans les autres.
And in fact, the title of the piece, Last Meadow, is a kind of stroke. It means a kind of stroke where the heart becomes so weak that it can't pump enough blood to the brain. So the brain is literally starved of oxygen.
Donc le titre Last Meadow vient en fait d'un terme assez médical qui signifie que c'est comme une forme d'attaque dans laquelle le cœur bat de moins en moins vite et donc il y a de moins en moins d'oxygène qui arrive au cerveau. Et the
word, the term comes from agriculture because the last meadow is the farthest part of the farm that receives the least amount of irrigation.
Et c'est en fait un terme qui est agricole en anglais car ça signifie la partie d'exploitation agricole qui est la plus éloignée des systèmes d'irrigation et qui donc reçoit le moins d'eau dans le terrain. Meadow, c'est une prairie en fait.
So I was very struck by this.
Donc ça m'a frappé cette dimension.
Donc l'arrivée de Michel et Tarek dans ce projet, je suppose que bien entendu ils sont partie prenante de l'élaboration du.
Michel has worked with me for 10 years in all of my group pieces. She's mon étoile. And Tarek, he worked with me when I first started to make group work in New York, and he worked with me for 3 years, and then he moved to Brussels. I kept hoping that there was a project to bring him back in to work with us. Before any of these conceptual ideas, I just knew I wanted to work with these two guys.
Très bien. Je vais passer la parole à Marie-Cécile.
Bah déjà, je voulais vous dire que moi, j'ai pris énormément de plaisir au spectacle et vraiment, j'ai trouvé ça remarquable, hein, à la fois dans la construction et dans le relief que prend le spectacle. Vous passez par plein de choses différentes au niveau à la fois musical, danse, jeu avec les codes du cinéma, jeu avec les ruptures. Et on est toujours surpris, on ne s'ennuie pas une seconde. Et il y a une vraie jubilation en tant que spectateur et un vrai plaisir. Voilà, et ce que disait François aussi, tout ce travail de casser le mythe, enfin jouer avec le mythe de James Dean, il y a aussi tout ce jeu avec les codes du spectacle, vous venez dans le public, les lumières sont, toute la machinerie est à vue, on voit comme un peu l'envers du décor, les travail des répétitions presque à certains moments, et en même temps, c'est, enfin, je trouvais ça vraiment remarquable. Quoi. Moi, j'ai pris la bande son est extraordinaire, elle participe, je crois, beaucoup de ce qu'on ressent, enfin, parce qu'en plus il y a un degré de volume assez élevé qui est très qui crée vraiment quelque chose aussi dans le rapport avec vous, quoi, qu'on a dans le public. Yeah. Voilà.
Let me talk about sound. The artist who made the sound, his name is he's an American artist, his name is Neil Medlin, and he's not a composer, he is primarily a performance artist. I saw him in a show in New York and I thought he was so fucking fantastic. And I saw that he did a little bit of the sound design for that show. I approached him and I said, "Do you want to do the sound design for my show?" And he was like, "I'm not a composer." And I said, "I don't care."
Donc l'artiste qui a composé la bande sonore de ce spectacle-ci n'est en fait pas du tout un compositeur, c'est d'abord un performer. Qui s'appelle Neil, et Miguel l'a rencontré à l'occasion d'un show à New York, et il a eu l'impression vraiment d'avoir en face de lui quelqu'un, donc la bande son était fucking good, et il lui a demandé de pouvoir faire la bande sonore de ce spectacle, et lui à la base ne voulait pas, parce qu'il a dit je suis pas du tout un compositeur, mais il a dit qu'il s'en foutait en fait.
And I mean, I actually was really happy that he wasn't a composer, because sometimes composer.
Donc j'étais très content qu'il soit pas un compositeur parce que en fait parfois les compositeurs bon on est pas un petit peu méfiant.
No, because I also make music and so I have a lot of sensitivity to sound. And,
parce que moi-même je fais de la musique et donc j'ai une grande sensibilité au son aussi, donc je me sens un peu bête de dire ça, mais.
And, you know, like Francois was saying, it's like, I love sound, I love light, I love all the elements of theater. I think they're incredible. I think that...
J'adore le son, j'adore la lumière, j'adore les, tous ces vieux éléments du théâtre qui participent du show.
I think it's a tragedy that we don't play with these things more because it's sensual experience.
Je pense que c'est vraiment une tragédie qu'on n'utilise pas tous ces éléments un peu plus parce que c'est une expérience extrêmement sensuelle.
But at the same time, I also agree that there's like an inheritance of really bad lighting or really bad sound or, you know, this kind of division between the dance and the music. It's very like, ugh, boring.
Mais en même temps, j'admets que c'est vraiment difficile d'avoir un héritage d'une série de pratiques du son, de l'image, de la lumière qui sont très mauvaises dans les pratiques théâtrales. Et donc, voilà, on est obligé de repasser derrière ça.
So, with Neil, it was amazing because I said, look, I am interested in layers, I'm interested in this idea of confusion, I'm interested in soundtrack.
Avec Neil, ça a été vraiment intéressant parce que je lui ai dit, voilà, je suis intéressé dans les différentes couches, je suis intéressé dans la manière dont on peut justement apporter cette confusion, de travailler avec les bandes originales.
I'm interested in sometimes where the sound becomes the most important thing, where it erases us.
Quand de temps en temps le son devient la chose la plus importante et qui nous envahit radicalement.
You know, so it's just all these different layers of thinking about it. It was an incredible experience to work with him because he wasn't intellectual about it. He was just totally intuitive.
Ça a été une expérience formidable de travailler avec lui parce qu'il a pas du tout une approche intellectuelle de son travail. Il a une approche complètement intuitive. C'est vraiment un artiste intuitif.
This is one of the first times I ever made a show. Most of my work comes from like this hyper personal, you know, interior. I discover what I'm feeling and I reveal my inside, you know.
La plupart de mon travail vient d'une perspective super intérieure, intimiste, où je travaille vraiment à l'intérieur de moi-même. Je suis révélé de ce qui sort de moi. Et puis là, c'est la première fois que.
And this is the first time that I looked outside.
Première fois que je regarde à l'extérieur.
And I said, okay, I'm going to look at these movies that, I mean, you know, I like the movies, but it's like, you know, they're not like my favorite movies in the world.
Et je me dis, bon, allez, regardons un peu ces films, je les adore, mais c'est pas non plus mes films favoris, ceux que je préfère au monde.
It was the first time that I was looking at these external structures, just, it was like a combination of these external structures, but also these kinds of like visceral interests in a particular scene.
Donc c'était la première fois que je regardais ces structures externes à moi-même, mais en même temps toujours combinées à des trucs vraiment viscéraux par rapport à des scènes particulières, donc des choses vraiment très intimes que je pouvais ressentir par rapport à des scènes particulières.
And we picked a lot of scenes from different movies, and I started to, I'd never done this before. I felt like Anna Teresa de Kersmacher doing this. I had like charts. You know, like, I don't know the woman, but I hear that she does this.
On a eu l'occasion de choisir parmi plein de scènes de films, et en fait, je me sentais un peu comme Anna Teresa de Kersmacher en faisant ça, parce que j'avais comme une sorte de grand tableau où j'écrivais des trucs, je faisais des tableaux, etc.
I felt like a very important artist.
J'ai vraiment senti un artiste super important.
That's great.
Bah alors, on va vous remercier. Thank you very much.
Merci beaucoup.
Voilà, c'est un artiste vraiment qui nous a beaucoup impressionnés. Hein. On peut dire Xiao Yun.
Il est impressionnant.
Hein. Oh. Ouais. Donc des spectacles très riches, très construits, très originaux.
Mm-hmm.
Oui.
Oui.
Donc merci pour ce montage, hein. Il a fallu choisir. Et ça reflète bien quand même le travail et le projet.
Hein. Oui, absolument.
Voilà, donc on va parler d'un autre spectacle maintenant, Already Made, de Gaëtan Bullourde, donc qui est chorégraphe belge.
Mm-hmm. Français.
Oui, c'était marqué Belgique sur la plaquette.
Oui, parce qu'il a travaillé et qu'il est produit par des à Bruxelles et qu'il est travaillé par des structures belges. Enfin, il est français à l'origine.
D'accord. Et donc, il nous présente ce spectacle sous forme là d'une interview plutôt. Voilà, on change les formes. Gaëtan Bullourde, bonjour.
Bonjour.
Donc, vous avez présenté un spectacle intitulé Already Made. Un spectacle qui tourne beaucoup autour des hommes, bien sûr, des hommes et des femmes, mais aussi des objets, de leur rapport l'un à l'autre.
Oui.
Donc, on peut voir ce rapport à plusieurs niveaux. Est-ce que parfois les objets sont la façon pour les hommes d'entrer en communication entre eux ?
Bah oui, sûrement, ouais, parce qu'on a besoin d'intermédiaires, je pense. On a besoin de... Le contact direct est assez rare. Il faut toujours des médiateurs, il faut toujours de l'espace entre soi et l'autre.
Donc, les objets, en tant qu'objets, ont une importance dans leur nature même ?
Non et oui. Non, parce que, en fait, ce sont des objets qui sont absolument usuels, qui sont absolument communs. Mais au fil du travail, effectivement, on s'attache à ces objets. C'est un petit peu comme quelqu'un qui appelle sa voiture Titine, ou tu vas démarrer Titine, ou je ne sais pas, ou des choses comme ça. Enfin, on a tous des rapports attachés aux objets. Peut-être parce qu'ils nous sont d'un usage particulier ou peut-être parce qu'ils ont des marques qui signifient aussi notre propre personnalité.
Effectivement, ces objets prolongent, on va dire, la personne ou la personnalité.
Oui, c'est ça. Ben, en fait, au départ, on a justement travaillé sur l'idée d'attribut. C'est vraiment ce rapport de l'objet au signifiant, comment on peut lire l'identité d'une personne à travers l'objet qu'il porte, l'objet qu'il représente, en fait.
Donc, on a bien compris. Cette conception autour de l'objet, c'est l'idée initiale. Après, vous avez pensé à un artiste qui s'appelle Duchamp.
Oui.
Quel est votre rapport à Duchamp ? Comment vous le considérez ?
En fait, c'est un rapport assez lointain, parce que moi, je suis plus sensible et plutôt au mouvement Fluxus qu'il y a eu après. Mais je pense que Duchamp a quand même apporté un espèce d'acte revendicatif. Il a vraiment levé le poing à un moment. Je ne veux pas passer ma vie en tant qu'artiste à être enfermé dans ma pièce, dans mon garage, dans mon atelier, dans quoi qu'est-ce, faire des peintures. Voilà. Je pense que c'est une revendication importante dans les arts plastiques à ce moment-là, mais aussi qui est importante aujourd'hui dans l'art performatif, c'est-à-dire on fait les choses que nous sommes en train de faire. Voilà, c'est vraiment l'idée de l'acte, de faire la chose.
Est-ce que le témoignage sur des objets, enfin quand je dis des objets, c'est au sens large, qui ont existé, qui ont été là, c'est quelque chose qui vous touche. Par exemple, on est à un moment où des événements, des choses ont existé, mais ils n'existent pratiquement plus que dans les mémoires de ceux qui les ont vécus ou en ont été le témoin. Et certains essayent de nier ou de renier des choses qui ont été réelles. Je pense par exemple à la Shoah ou d'autres choses.
Mmh. Oui, c'est vrai que c'est une notion de l'histoire. Oui, en fait, qu'on est dépossédé de notre propre histoire. Par cette idée même, cette projection qu'on a sur l'histoire qui serait l'histoire des grands hommes, l'histoire des grands événements. Parce qu'on rejoint un peu cette idée de qu'est-ce que c'est un événement. Il y a des micro-événements. L'histoire telle qu'on l'entend comme science, comme l'histoire professorale, l'histoire doctorale, c'est vraiment une histoire de dépossession de notre propre histoire. Nous, les gens, on est dépossédés de notre histoire parce qu'on dit que l'histoire, c'est pas ça. L'histoire, c'est des événements. Il y a 1789, il y a 1914, il y a Vercingétorix. Mais c'est pas un rapport au temps qu'on vit, nous. C'est pas quelque chose qui est pertinent par rapport à notre propre histoire. Je crois qu'on est dépossédés de cette histoire.
Je pensais à ça parce que, finalement, dans ce spectacle, les personnages sont avec leur objet, c'est-à-dire font corps avec leur objet réciproquement. Et finalement, les objets n'existent de cette manière que dans la mesure où ils sont mis en vie, transportés, mais je veux dire portés par ces personnes. Donc la question se pose que, quand ces objets sont isolés, c'est-à-dire coupés de leur contexte, de leur relation à l'homme, il ne reste plus que des objets, ils ne témoignent plus de grand-chose.
Ben oui, ils sont dépossédés eux aussi, oui. Ils sont dépossédés de leur usage, en fait. Parce que le rapport quotidien qu'on a aux objets, c'est un rapport d'usage. Tout au moins dans nos sociétés, parce qu'il y a des sociétés dans lesquelles l'objet est aussi, aussi une âme. L'objet a une histoire. Enfin, une histoire commune avec nous. On est assez attaché maintenant à ces objets, mais une histoire qu'on ne connaît pas non plus. L'histoire qu'ils ont eue avant. C'est des objets qu'on a trouvés l'un à Gand, on travaillait dans un théâtre, au Voreuth, l'autre au VP de Simmer à Anvers, et le troisième à Bruxelles. Voilà, ils ont leur histoire, on a une histoire commune avec eux, et puis ils vont avoir aussi peut-être une autre histoire maintenant.
Donc ce qui rejoint ma première idée, c'est de dire que quand il ne reste plus que les objets, si les personnes qui les ont portés ne sont plus là, il peut y avoir des modifications profondes sur l'histoire liée à ces objets et ces hommes.
Ben oui, parce que ces objets sont muets aussi, parce qu'il n'y a rien qui peut ressembler plus à un objet qu'à un autre, et ça dépend effectivement de l'usage qu'on en fait. Enfin, je sais pas, par rapport à Auschwitz, effectivement, une douche commune, ça n'a pas le même sens. Effectivement, les objets sont chargés de sens, mais il faut les brancher aussi. Il faut alimenter leur sens, on peut alimenter leur sens.
Alors justement, c'est dans le sens de le fait que certains objets dans un contexte avaient une certaine signification et que sortis du lien avec la personne qui en ont été les témoins ou les porteurs, on peut très bien falsifier ou transformer leur histoire.
Oui, parce qu'on peut leur faire dire ce qu'on veut, puisque c'est finalement nous qui parlons à travers eux.
Curieusement, à partir d'un spectacle qui est plutôt drôle et humoristique, on va dire, on arrive à imaginer, au travers de la démarche que vous avez, des choses qui sont un peu décalées, et c'est peut-être un peu ce que vous avez fait ressentir dans la présentation de votre travail, de ces étapes de réflexion entre vous.
Ben oui, oui. Pour moi, j'aime beaucoup déplacer une chose, en fait. Je ne suis pas dans un rapport frontal aux choses. Je vais faire le contraire de ce qu'on fait. Mais plutôt, genre, qu'est-ce que ça ferait si on déplaçait une toute petite chose? Ou si on enlevait genre, un simple élément, qu'est-ce que ça fait? Comme si y a des jeux comme ça où on enlève un petit élément, après c'est à l'autre de jouer qu'on enlève un tout petit élément, au suivant de jouer, jusqu'à ce que la chose s'écroule. Et ben, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement ouais, jusqu'à quand la chose tient.
Quels sont vos prochains projets?
J'ai des envies. Pour l'instant, c'est vraiment de l'ordre des désirs. Je ne sais pas encore si, avec ce projet, j'avais envie d'épuiser l'idée d'objet et de vraiment travailler sur le sujet, plutôt que travailler sur l'objet maintenant.
Donc, votre compagnie s'appelle ?
Villa Lobos.
Et vous êtes basé à Bruxelles ?
Nous sommes basés à Bruxelles, oui.
Merci, bienvenue.
Merci.
Voilà, toujours donc en compagnie de nos invités autour des Latitudes contemporaines 2010, une édition très riche et qui s'est conclue par un spectacle, c'est-à-dire très drôle, où on parle beaucoup, un spectacle de quelqu'un que nous avons rencontré également, que nous avons interviewé. Donc il s'agit d'Aude de la Chaise, peut-être François Frima, présentation rapide.
Oh ben, alors Aude, ce dernier spectacle était là aussi assez réjouissant, d'abord parce qu'il est drôle, hein, qu'il fait beaucoup rire et surtout qu'il était sur une thématique qui en définitive est rarement exploitée, qui est celle de la sexualité féminine. Voilà, la proposition d'Aude était suffisamment singulière pour qu'on s'y intéresse. Et bon, en plus, il y a un état du travail qu'elle avait montré en région parisienne il y a quelques temps. C'était très prometteur et j'ai trouvé que là, vraiment, la représentation était bonne. Alors, c'est en plus une vraie performance parce que, au-delà du fond, alors j'ai toujours l'impression que je néglige le fond des pièces parce que je dis. On va pas lire, on va pas dire, on va pas. Bon, c'est-à-dire que le spectacle vivant, c'est à vivre. Hein. Puis quand on les vit, il y a des contenus tellement évidents que bon, je vois pas bien ce que le discours viendrait faire pour doubler cela. C'est pas sa place en tout cas, mais simplement ce que je peux dire, c'est que ce qui est intéressant dans le travail d'Aude Lachaise, c'est la façon dont le texte qu'elle a composé sert de base à une véritable chorégraphie. Parce que ça n'est pas du théâtre, ce n'est pas du one woman show, c'est pas, on est bien dans quelque chose qui est de l'ordre de la performance et avec des états de corps, avec une chorégraphie qui est stimulée par ce texte qu'elle a écrit au départ, qui mériterait d'ailleurs à lui seul d'être édité. Et voilà, c'était un très très beau moment pour nous. On était très heureux de finir avec. Avec cette pièce.
Voilà, Aude Lachaise, donc, que nous avons retrouvé tout de suite après le spectacle.
Aude Lachaise, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez présenté donc ce soir un spectacle qui s'appelle Marlowe.
Marlowe, c'est ça.
Donc comme Brando, bien sûr.
Exactement.
Mais en même temps, on peut dire la petite cuisine du sexe, votre histoire.
Moi, je le présente toujours comme parlant du désir. Et c'est vraiment à ça que je pense. C'est-à-dire vraiment, il parlait du destin tout à l'heure, mais c'est vrai, cette pulsion originelle et l'avancée, en fait, ce mouvement comme ça. Et du coup, la petite cuisine du sexe, pourquoi pas, mais ça me semble un petit peu moins essentiel que ce que moi j'y vois. La vie, quoi. La vie qui pulse quand même et partout.
Donc pour un spectacle de danse, c'est très écrit. Hein. Au départ, c'est un texte.
C'est ça. Donc c'est pas vraiment un spectacle de danse. Moi je trouve pas que ce soit un spectacle de danse. Par contre moi je suis danseuse. C'est mon premier solo. Enfin c'est mon premier travail aussi. Et ça s'est trouvé comme ça. J'ai pas choisi. La forme s'est imposée à moi. Enfin je pense que j'avais envie d'écrire sans le savoir, parce que finalement je l'ai découvert en le faisant. Par contre moi je suis une danseuse. Donc après j'ai quand même une relation à la danse qui m'a permis de mettre en scène avec de la danse ce texte.
C'est plein d'humour et de subtilité.
Je ne vous le fais pas dire.
Donc ça a été construit comme un moment plaisant et en même temps comme un moment de réflexion humoristique.
C'est ça. Je pense que chacun a un peu ses pudeurs personnelles. Bon, comme interprète pour les autres, je pense que j'aurais très envie de faire des choses peut-être plus dramatiques. Mais tout de suite comme ça, ça me gêne. J'ai besoin un peu de l'humour pour mettre un peu de distance comme ça.
Alors, dans cette histoire, Marlon Brando, c'est celui qui est l'objet de tous vos désirs, de vos fantasmes?
C'est pas l'objet de tous les désirs, c'est plutôt l'incarnation du désir. Et tout à l'heure on parlait de spirituel, pour moi c'est un peu ça, c'est-à-dire c'est une forme de Dieu, ou une présence un peu immanente comme ça, qui est là pour m'aider finalement à fournir du désir, parce que c'est quand même mon angoisse, celle de manquer un jour de désir, d'envie quoi.
C'est intéressant l'image que vous donniez, dire que Marlon n'est pas celui qui émet, qui émane quelque chose, mais plus quelque chose de relativement distant et réceptif qui absorbe.
Qui attire, oui, c'est ça. C'est ça, donc c'est lui qui fait travailler les gens, il fait produire en fait aux gens le désir. J'aime beaucoup cette idée du trou noir comme ça, une présence qui est finalement repérable par l'absence de rayonnement en fait qui sort d'elle. Et Marlon, bon, c'est pas tout à fait ça parce qu'il est repérable quand même. Mais pour moi, c'est un peu. Il est d'autant plus visible qu'il capture tous les désirs et que finalement, c'est le centre d'une attention qui est provoquée par les autres.
Donc ce spectacle, on va dire, fonctionne comme une mayonnaise qui prend bien jusqu'au bout, qui ne retombe pas. Il n'y a pas tellement de. Il n'y a pas de relâchement dans l'attention du spectateur.
Vous l'avez dit pas tellement.
Non, c'est vrai, j'en ai pas senti. Vous en avez trouvé par rapport au public?
Non. Non, j'ai des moments plus ou moins faciles, quoi, où je sais que. Normalement, là, c'est le moment où ça va prendre un petit peu. D'autres, c'est un peu... Mais sinon, non, ça passe à peu près bien.
Donc, vous jouez un peu avec le public, quand même?
Bah oui, complètement, j'espère. Oui, je joue avec le public.
Il participe du jeu, quand même.
Complètement, c'est très interactif, sans le vouloir.
Voilà, donc, vous étiez ici dans le cadre du Festival Latitude Contemporaine. J'allais dire, et avant et après.
Alors pour l'instant, je suis concentrée sur la diffusion de mon spectacle Marlon. Par ailleurs, nous avons un groupe de musique parce que nous sommes un espèce de collectif qui s'appelle les Vraums. Donc c'est assez queer, alternatif, post-punk, autant dire plein de promesses, parce qu'on ne sait pas jouer. Donc on est toutes ou de la danse contemporaine ou des arts plastiques, c'est-à-dire plutôt pas des musiciennes, et ça se voit. Hein. Nous ne cachons pas que nous ne sommes pas des musiciennes ni des chanteuses. Et voilà, et sinon je serai avec à Avignon avec Marlon cet été, et aussi au Festival Rayon Frais, et à la rentrée aussi ailleurs en France.
Merci Aude Lachaise.
Avec plaisir.
Voilà, donc une présentation de ce spectacle, une belle conclusion, hein, très sympa, une belle soirée.
Oui, oui, oui. C'était deux solos, Miguel Gutiérrez et Au de la chaise ensuite, voilà, qui était, que ça se complétait bien. voilà, non, non, on est très très content d'avoir, d'avoir terminé avec cette soirée.
Quels sont les projets? Alors, on ne va pas dévoiler la saison prochaine, bien sûr, mais on peut quand même
tout,
dire
enfin,
l'année, comment elle se construit.
Alors, d'abord, le premier rendez-vous, c'est à Bruxelles, au hall de Scarbeck, du 21 au 25 septembre, où il y a donc l'Attitude contemporaine Bruxelles, avec une programmation alors, dont que je ne peux pas encore dévoiler, mais qui est pour partie... proche de celle qui vient d'arriver, mais avec des choses inédites aussi. Mmh. Hein, bon, des choses inédites, des choses qu'on retrouvera peut-être dans l'Attitude contemporaine Lille l'année prochaine. Concernant l'année prochaine, sur le festival, il y a une date que je peux déjà indiquer quand même, c'est celle du samedi 11 juin à Valenciennes, puisqu'on prend l'habitude, pardon, à partir de cette année, de décrocher à Valenciennes un temps du festival. Bon, il faut dire que le Phénix, le nouveau directeur du Phénix, hein, Romaric Dorier, a construit une programmation quand même tout au long de l'année. On retrouve beaucoup, je veux dire, beaucoup de gens qu'on aime beaucoup. Je cite comme ça pêle-mêle, tout le monde pourra se référer à la plaquette du Phénix, mais enfin, on peut y retrouver entre autres Alory Goerger, Alain Buffard, Castellucci, Rémi Héritier, Antoine Defort, François Verret, Mylène Benoît, Cédric Corin, Laurent Goldring et Isabelle Chad, bon, qui sont quand même des vieilles connaissances du festival. Il y a une cohérence. On ne pouvait pas ne pas travailler ensemble. Et donc le 11 juin, l'année prochaine, l'Attitude contemporaine programmera au Phénix Claudia Triozzi avec Ni vu ni connu, la nouvelle création de Claudia, et Stephen Cohen avec sa nouvelle création également.
D'accord. Bon, côté bureau.
Alors, côté bureau de production, le bureau de production continue à tourner très bien, à se développer. Je pense que les artistes et les compagnies sont assez contentes. On aura peut-être une petite évolution en cours d'année. Je ne peux pas encore trop m'avancer sur ce terrain. C'est pas mal. Bon, la seule... on espère aussi que le niveau budgétaire, l'année prochaine, on ne sera pas trop menacé par les méchants temps qui courent. Par exemple, on n'a pas eu tout à fait ce qu'on nous avait promis de la part de la métropole. On est un petit peu embêté. Même chose aussi du point de vue au niveau de la DRAC. Voilà, c'est toujours un peu compliqué de travailler en devant naviguer à vue et d'être soumis aux aléas des financements publics et des possibilités de financement public.
Voilà, eh bien, merci à toutes, merci à tous. Seoyoun, c'était ton premier festival en France.
Oh, hein. Oui.
Tes impressions?
Oui, bien sûr. Maintenant, je suis un peu triste. C'est la fin du festival, mais c'est aussi la fin de mon stage à la radio. Et pendant un mois, j'ai appris beaucoup de choses, non seulement les techniques de faire l'émission, techniques de faire le montage, mais en même temps, pendant les festivals, ça me tourne un coup d'histoire, cours de l'art, on dit.
De langage aussi.
Ah oui,
parfois,
de langage, oui. J'ai fait beaucoup d'exercices d'écoute en même temps. Et comme je suis étudiante en management, j'ai déjà dit à René, avant, je pense à travailler dans le secteur commercial, par exemple, une entreprise franco-chinoise. Mais maintenant, je commence à penser. Peut-être je peux travailler dans le secteur culturel. Et Hélé a déjà me présenté à Madame Maria Camia Bailey, peut-être l'année prochaine.
Grand plaisir.
Bien, voilà, sur ces beaux projets, bonnes vacances. Merci à toutes et à tous. Merci François
toi,
Frima. Bonne journée.
Toujours fidèle.
Merci.